Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 22h à Moscou et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, le sommet de l'UE sur l'Ukraine en plein désengagement américain. Le président Zelensky a vivement remercié les 27 pour leur précieux soutien. Les Européens qui ont donné ce soir leur feu vert au plan de Bruxelles pour muscler leur défense. Au Proche-Orient, le Hamas condamne les menaces de mort de Trump au peuple de Gaza si les otages ne sont pas libérés. De quoi fragiliser encore un peu plus la trêve en cours. La guerre commerciale, Donald Trump recule à nouveau sur les droits de douane contre le Mexique en les reportant au 2 avril. Également pénalisé, le Canada et la Chine promettent de se battre jusqu'au bout. Enfin, ça ne s'arrange pas du tout sur le front du climat. Les températures mondiales sont toujours au plus haut. De quoi laisser redouter à nouveau que l'an passé, une multiplication des catastrophes climatiques.
RFI.
Une semaine après sa violente altercation avec Donald Trump à la Maison-Blanche, le président Zelensky a donc retrouvé ses alliés européens aujourd'hui à Bruxelles, où les 27 l'ont chaleureusement accueilli et assuré de leur plein soutien après le gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Abla Junaïdi.
Oui, Volodymyr Zelensky, content de trouver un peu de chaleur après l'entrevue pénible à la Maison-Blanche la semaine dernière. Nous sommes très reconnaissants de ne pas être seuls, a dit le président ukrainien aux Européens. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a réaffirmé le soutien à l'Ukraine. L'Allemagne s'est positionnée avec force pour compenser la perte de l'aide américaine. Pendant ce temps, en Ukraine, la guerre continue. Hier, la ville natale de Zelensky, Kryvyi Rih, a été bombardée par l'aviation russe. Moscou, qui qualifie ce jeudi de menace, la proposition hier par Emmanuel Macron d'une protection de l'Europe par le parapluie nucléaire français. La Russie rejette aussi le principe d'une trêve temporaire voulue par les Européens. Elle sera au cœur des discussions mardi prochain à Paris d'une réunion des chefs d'état-major européens. Pour Moscou, ce serait donner du temps à l'Ukraine pour reconstituer ses forces, mais d'autres pays soutiennent apparemment ce plan. Selon une source gouvernementale britannique, outre les Européens, le Royaume-Uni, plusieurs pays du Commonwealth et la Turquie seraient prêts à déployer des troupes dans le cadre d'une éventuelle mission de maintien de la paix. Et puis, vous l'avez dit, vous tous ont donné également leur feu vert pour renforcer la défense de l'Union. Ursula von der Leyen avait annoncé 800 milliards d'euros de dépenses d'armement. Une partie pourrait servir à aider l'Ukraine, selon la présidente de la Commission.
Abla Junaïdi du service international de RFI, on l'a appris ce soir, les délégations ukrainiennes et américaines doivent se rencontrer mardi prochain en Arabie Saoudite. De son côté, Moscou a donc très peu goûté aux critiques du président Macron qui a estimé hier que la Russie représentait une menace existentielle. Absurde, délirant, a jugé le Kremlin qui estime que Paris veut continuer la guerre et qui a par ailleurs rejeté l'idée avancée par le président Macron d'une trêve temporaire en Ukraine. Et entre Paris et Moscou, le torchon brûle pas seulement en paroles, les accrochages se font également dans le ciel. L'état-major des armées a ainsi diffusé la vidéo du passage d'un chasseur-bombardier russe tout près d'un drone français qui volait en Méditerranée orientale. Les faits se sont déroulés dimanche, ils ont été révélés hier par le ministère des Armées. Un incident qui illustre, disent les militaires français, la très grande agressivité de la Russie. Franck Alexandre.
Dimanche 2 mars, au large de la Syrie, un chasseur russe, Sukhoi 35, assure une mission d'escorte routinière d'un Antonov 124 qui fait le trajet Latakia-Russie. Mais le chasseur fait demi-tour et se dirige vers un drone Reaper français, alors en mission d'observation, avec la volonté manifeste, dit le colonel Vernet, porte-parole de l'état-major, de détruire l'appareil français.
Il s'y est pris à 3 reprises, ce n'est pas une erreur ou un manque de visibilité. On voit qu'il place le drone dans sa turbulence de sillage, c'est-à-dire la vague d'air qui se trouve derrière l'avion au moment où il va le survoler, est en mesure de provoquer une perte de contrôle. Un mode opératoire qui avait déjà été utilisé en 2023 en mer Noire de la part d'un Sukhoi russe vis-à-vis d'un Reaper américain et qui avait provoqué la destruction du drone américain. Ce phénomène de turbulence de ciel, là, c'est utilisé comme, d'une certaine façon, une arme.
L'incident n'est pas un cas isolé. Il y a quelques semaines, un avion de patrouille maritime de la Marine nationale s'est retrouvé en mer Baltique dans le collimateur d'un système solaire russe, des pratiques qui avaient disparu depuis la fin de la guerre froide.
Il est 18h05 à Paris. Sur le front de la guerre commerciale, Donald Trump recule à nouveau et a suspendu l'essentiel des droits de douane contre le Mexique jusqu'au 2 avril prochain. La décision qui intervient alors que ces taxes ont provoqué des accès de fièvre sur les marchés, mais aussi auprès des entreprises et des consommateurs. Comme le Mexique, le Canada et la Chine, également taxés, ont en tout cas promis qu'ils se battraient jusqu'au bout. Au Proche-Orient, la trêve à Gaza, toujours en péril, le Hamas palestinien a dénoncé avec force l'ultimatum d'hier de Donald Trump, qui selon lui encourage Israël à se soustraire de l'accord de cessez-le-feu, après que le président américain a menacé de mort le peuple de Gaza si les otages n'étaient pas libérés. De son côté, la France estime que le Hamas doit être désarmé et entièrement exclu de la future gouvernance de Gaza. En France, la parole au parti civil au procès de Joël Lescouarnec, l'ex-chirurgien, est jugé pour 299 agressions sexuelles et viols aggravés, essentiellement sur des patients mineurs âgés de 11 ans en moyenne. On retrouve tout de suite en direct du tribunal de Vannes Laura Martel. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Et comme la plupart des parties civiles, Sabine, 43 ans, n'avait aucun souvenir de son viol que l'accusé a reconnu à l'audience. Ce sont les gendarmes qui lui ont appris les faits dont elle a été victime.
Le 24 avril 91 est bien gravé dans la mémoire de Sabine. Elle a 9 ans et en faisant la course avec son frère, elle chute lourdement de vélo. De son hospitalisation, en revanche, elle ne se rappelle rien, comme elle n'a d'ailleurs presque aucun souvenir de son enfance. Pourquoi ? Durant 30 ans, elle a relié ça à l'accident, mais la question l'a hantée jusqu'à cette convocation en 2018 et l'annonce de son viol. Je me suis immédiatement sentie sale, ça m'a dégoûtée, j'avais envie de partir en courant, raconte difficilement la quadragénaire. Je me suis dit, c'est pas possible, j'aurais forcément dû m'en souvenir. Auriez-vous préféré ne pas savoir ? Demande la présidente. Mon mari m'a posé la question. Moi, je savais bien qu'il y avait une part d'ombre dans cette perte de mémoire. Mais encore maintenant, je ne comprends pas que je ne m'en souvienne pas. Est-ce qu'il m'a endormie ou mon cerveau me protégeait ? Je devrais faire l'effort de consulter, mais c'est si dur. Souffle celle qui peine à confier ses souffrances, mais évoque colère, trahison, relations intimes difficiles. Prostrée à la barre, Sabine endure le terrible récit de son viol, décrit par l'accusé dans ses carnets. Mais c'est sans s'y lier qu'elle le fixe, tandis que lui, fuyant son regard, présente ses excuses, voix tremblante, pour la désolation qu'il a causée. Sabine le toise une dernière fois, puis part sans un mot. « Je ne crois pas que la guérison qu'il allègue soit possible », avait-elle souligné plus tôt.
Laura Martel, en direct de Vannes. Laura du service France Justice de RFI. Ça ne s'arrange toujours pas sur le front du climat cet hiver 2025. Illustre encore le réchauffement de la planète dans la droite ligne de ces deux dernières années, marquées par des chaleurs à des niveaux historiques. Résultat, la banquise fond à vue d'œil et les températures mondiales sont au plus haut, de quoi laisser redouter une multiplication des catastrophes climatique. Illustration en Indonésie, littéralement noyée sous les eaux, des pluies diluviennes qui ont fait un mort et des milliers de déplacés dans la capitale Jakarta. Et le mauvais temps devrait durer. Les autorités vont donc utiliser la technique de l'ensemencement des nuages dans les zones montagneuses de Java. Explication de Marine de Guillermo Weber, chercheuse à l'IRSEM.
L'ensemencement des nuages, c'est une pratique qui consiste à disperser dans les nuages des produits chimiques qui vont en fait en modifier la structure chimique et permettre d'influencer les précipitations. Donc ça peut être soit pour augmenter les chutes de pluie, soit parfois pour les faire advenir plus vite ou dans une région géographique différente, ou bien ça peut être aussi pour lutter contre les chutes de grêle. Alors comment ça fonctionne concrètement ? Vous allez utiliser soit des avions, soit des ballons, soit encore des générateurs au sol, afin d'aller porter dans les nuages des solutions chimiques, qui peuvent être soit de l'iodure d'argent, soit des sels hygroscopiques. Et ces substances chimiques vont soit accélérer la condensation dans le nuage, soit augmenter le processus de congélation. Donc dans un premier cas, vous allez influencer les chutes de pluie, et dans un second cas, influencer les chutes de grêle. Et donc ça, ce sont des techniques qui sont utilisées très largement dans le monde par une cinquantaine d'États. Il n'y a pas de consensus scientifique aujourd'hui sur l'efficacité de ces pratiques, bien qu'elles soient utilisées depuis les années 50. Maintenant, on a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur leur efficacité dans la communauté scientifique.
Des propos recueillis par Yelena Tomic. Il est 20h10 à Paris, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans un instant sur la Radio Mondiale. Vous retrouvez le magazine Accent d'Europe. Bonne soirée, bonne écoute.